Bonjour. Je vais essayer d'évoquer effectivement la place du juge et donc du juge judiciaire, puisque en tant que secrétaire général du syndicat de la magistrature, je parle notamment depuis cette position-là. Je vais très largement en réalité rejoindre le constat qui a été fait par Olivier Kahn sur ce juge, ce qui est donc un constat extrêmement dur sur la façon dont le juge se situe dans l'antiterrorisme. Et en réalité, l'axe principal de mon intervention, c'est de savoir comment est-ce que l'état d'urgence met de manière plus générale l'antiterrorisme comme système juridique, architecture juridique effectivement quasi autonome. Je rejoins également sur ce point qui fonctionne par ce mécanisme d'exception permanente. Donc comment est-ce que l'antiterrorisme travaille le juge, modifie son office et en réalité le dévoie. Alors je vais dans ce cadre peut-être essayer de faire parler les juges. À vrai dire, ils parlent d'eux-mêmes sur ce sujet et ils sont très parlants lorsqu'ils le font. Il y aura parfois de l'anecdote, de la citation, mais aussi de la jurisprudence, et je vais essayer de naviguer entre ces trois niveaux de discours qui me paraissent extrêmement intéressants au-delà de l'analyse du droit en la matière. Et donc, sur cette question, finalement, comment est-ce que l'état d'urgence et l'antiterrorisme travaillent le juge, il y a deux axes d'entrée qui sont à la fois par quels moyens est-ce que l'antiterrorisme travaille le juge et avec quels effets. Par quels moyens c'est par des mécanismes à la fois de contournement du juge et de surarmement du juge, deux mécanismes qui paraissent contradictoires mais qui sont en réalité complémentaires. Et puis, avec donc quels effets, je l'exposerai dans un deuxième temps. Il a été beaucoup fait référence à la fois, je crois, au régime de l'état d'urgence et au régime qui sont produits par ces diverses lois antiterroristes qui se sont accumulées dans notre droit. Et lorsque la critique se fait sur un plan politique de ces textes, notamment de l'état d'urgence, elle se concentre beaucoup autour de la question de du contournement du juge judiciaire, l'éviction du juge judiciaire. C'est le point de départ de beaucoup de critiques qui sont faites, avec beaucoup de pertinence d'ailleurs, on les a notamment menées au syndicat de la magistrature, sur l'état d'urgence, sur la loi du 13 novembre 2014, celle du 3 juin 2000, donc la loi Cazeneuve, la loi du 3 juin 2016, la loi Urvoas, la loi du 21 juillet 2016, qui est l'une des prorogations de l'état d'urgence, mais qui est devenue une loi antiterroriste en l'espace de 48 heures, la loi en cours qui va donc être adoptée et qu'on appellera donc désormais la loi Collomb. L'une des dimensions principales de ces lois, c'est effectivement celle de contourner le juge judiciaire, mais surtout par le fait qu'elle développe un sous-droit pénal, qu'elle développe un droit administratif, préventif, répressif, on est obligé d'accumuler les expressions, qui de fait se passe du juge parce que tout cela se passe ailleurs. Il faut absolument lier toujours cette double problématique. On a tendance malheureusement souvent dans les débats et ça sert d'ailleurs le pouvoir politique à laisser penser que c'est une querelle de chapelle entre le juge administratif et le juge judiciaire, lequel aura la plus grosse hermine. En réalité, la problématique principale, c'est évidemment celle de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire de quel pouvoir est-ce que la loi dote l'exécutif. Et c'est la question du cadre juridique des mesures qui peuvent être prises. Et en la matière, ce qui préside effectivement aux derniers textes et aux textes les plus récents, c'est à la fois une logique préventive qui est un peu intrinsèque à ce qu'on appelle la police administrative, mais c'est une logique préventive poussée à son extrême et avec des définitions qui sont extrêmement floues. Lorsqu'on examine par exemple les terminologies qui sont utilisées dans les débats parlementaires ou dans les débats tout court autour de ces textes, on voit bien que sur le plan sémantique, il y a une vraie modification, puisque ce dont on parle, c'est des zones grises, c'est de la levée de doute, c'est finalement une abolition d'un certain nombre de frontières de la pensée, en fait, et d'un certain nombre de catégories, et il y aurait des sortes de catégories molles qui justifieraient un renouvellement de l'ordonnancement juridique. Et donc, on ne parle plus de culpabilité, on est dans la dangerosité, on ne parle plus de présomption d'innocence, on est dans le principe de précaution, et donc cette logique du soupçon. Alors, les mesures ont été pas mal évoquées plus tôt, donc je vais passer assez vite sur le sujet, donc les mesures de l'état d'urgence qui ont été décrites précédemment, mais aussi, et là je rejoins encore ce qui a été dit dans la précédente table ronde, pour dire que ce mouvement, il a commencé avant l'état d'urgence. Il a commencé avec des mesures, le blocage administratif des sites faisant l'apologie du terrorisme, les interdictions de sortie du territoire, interdictions administratives de sortie du territoire, qui ont été adoptées dans la loi du 13 novembre 2014, avec une figure qui a été politiquement très utile, qui était celle de la famille désarmée, face à un de ses membres qui partait en Syrie ou qui partait... Et donc, à ce moment-là, il y a eu quand même un basculement qui est très significatif de mon point de vue, dans la mesure où on a accepté l'idée dans une démocratie que le pouvoir exécutif pourrait empêcher un citoyen national de quitter le territoire. Ce qui est quand même, quand on le regarde avec un peu de recul et quand on essaie un peu de se mettre à distance, une mesure qui est extrêmement choquante, je dirais, sur un plan démocratique. Donc ces interdictions de sortie du territoire, l'inverse, les mesures d'assignation à résidence lorsqu'on est de retour d'un théâtre d'opérations terroristes, le fait qu'on peut retenir une personne, que l'administration peut retenir une personne pour faire des vérifications dans des fichiers alors même que son identité est connue, qu'il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et puis, dans la loi qui va être bientôt promulguée, ces mesures d'assignation, alors qu'ils ne sont plus des assignations à résidence, mais des assignations à commune, pour des personnes qui seraient en relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ou soutient, diffuse des thèses ou des idées incitant à la commission d'actes de terrorisme. Donc, dans ces mesures, ce qu'on a, c'est évidemment une triple mutation qui a été évoquée, c'est-à-dire la mutation des critères sur la base desquels peuvent être prononcées des mesures de privation de liberté ou d'intrusion dans la vie privée, une mutation du mode de preuve, et là on a quand même une distinction qui reste importante, même si j'y reviendrai un peu plus tard, entre la procédure pénale, qui est une procédure écrite, consignées dans lesquelles on a un certain nombre d'actes d'enquête qui sont explicitement exposés à la personne contre qu'elle vise, et les notes blanches qui ont été évoquées plus tôt, et puis une mutation du contrôle juridictionnel, puisqu'on n'est plus sur un contrôle juridictionnel systématique et a priori par le juge judiciaire, mais un contrôle a posteriori et limité par le juge administratif. Alors, la dimension de contournement, elle a été déjà beaucoup évoquée dans le débat public, donc je voudrais aussi montrer que ça ne fonctionne pas que par contournement. Et c'est ça qui me paraît aussi très intéressant. Il y a deux autres modalités, finalement, qui me paraissent intéressantes. C'est la logique d'articulation entre l'autorité administrative, l'exécutif et le juge judiciaire. Et il y a une injonction politique très forte, qui est notamment traduite dans une circulaire qui date du 5 novembre 2016, à articuler les interventions, communiquer et diffuser les informations des uns vers les autres, et être dans une logique finalement complémentaire entre l'intervention administrative, qui tire vers la répression, et l'intervention judiciaire qui tire vers le préventif. Alors évidemment, tout ça se fait toujours assez systématiquement au profit de l'administratif, et je vais vous en donner deux exemples. Dans le texte de mémoire de la loi 2016, dans la loi de 2016 de mémoire, lorsqu'on avait une mesure d'assignation administrative, elle était levée en cas d'ouverture d'une affaire judiciaire. Et donc c'était par principe, elle tombait finalement un peu automatiquement. Cette disposition a été modifiée pour dire que désormais, cette mesure d'assignation administrative n'était caduque que si, dans le cadre de la procédure judiciaire antiterroriste, la personne faisait l'objet d'une mesure soit de détention provisoire, soit de contrôle judiciaire. Donc, en gros, il y a toujours un vide à combler. Si on a, pour vous expliciter peut-être, je ne sais pas si c'est très clair, il faut imaginer une personne qui est assignée à résidence. Un jour, les services de police estiment qu'il est pertinent d'ouvrir une enquête judiciaire, un service du parquet, etc. Et un juge est saisi, elles sont présentées devant un juge, potentiellement une mise en examen pour des actes de terrorisme, et ce juge décide qu'il n'y a ni besoin de détention provisoire, ni besoin d'un contrôle judiciaire. Bon, autant vous dire que l'hypothèse est assez peu probable, mais surtout, autant vous dire que si c'est le cas, c'est que, décidément, il n'y a pas grand-chose comme élément dans ce dossier. Eh bien, la loi dit désormais, oui, mais si c'est le cas, quand bien même ce juge a estimé, lui, qu'il n'y avait aucune mesure de sûreté à prendre, quand même, conservons notre assignation administrative à résidence. Il y a là quand même quelque chose dans cette articulation un peu inégale, on va dire, qui est assez étonnant. Et on l'a retrouvé dans l'état d'urgence, je pense que ce sera peut-être évoqué par l'un d'entre vous, dans le fait qu'on a eu une personne qui a été assignée à résidence alors qu'elle était par ailleurs condamnée pour des actes de terrorisme. Et cette assignation à résidence a mis en échec une mesure d'aménagement de peine qui était en cours. Et donc une mesure d'aménagement de peine, c'est-à-dire d'exécution d'une peine d'emprisonnement qui, du coup, évidemment, aurait dû primer sur une mesure administrative. Donc ça, c'est cette dimension de l'articulation. Et puis l'articulation, elle se retrouve dans d'une autre manière, dans le fait que la justice sert de bras armé à l'exécutif. Ce que produisent ces textes, à la fois l'état d'urgence et ces lois avec les assignations à résidence et toutes ces interdictions, c'est que ça crée une infraction qui n'existe pas. Vous avez des personnes contre lesquelles l'État, vu dans sa globalité, n'arrive pas ou ne réunit pas des éléments laissant penser qu'il a commis une infraction pénale ou qu'il en prépare une. Et comme ça a été dit en matière d'antiterrorisme, elles sont tellement largement définies que ça veut dire que vraiment on n'a pas grand-chose. Et néanmoins, en lui imposant une mesure administrative, on va créer les conditions d'une nouvelle infraction qui est la violation de cette mesure administrative. Et là, on va réclamer du juge qu'il emprisonne, et à vrai dire, il va le faire assez facilement. C'est là que je rejoins ce qui a été dit précédemment. Concrètement, on crée en fait les conditions qu'une personne ne respecte pas une mesure, notamment en la rendant assez invivable et en opérant un contrôle extrêmement rigide. Et dès lors, on permet à la collectivité d'être débarrassée par la prison de cette personne. Et donc là, je cite notamment un article auquel je vous renvoie, qui est un article de Olivier Kahn, qui est donc dans la revue Archives de politique criminelle sur le sujet du terrorisme, qui décrit très bien ce mécanisme. Donc ça, c'est le mécanisme du contournement, dont on voit qu'en réalité, c'est un contournement collaboratif inégal, peut-être, on pourrait dire ça. Et puis, il y a le deuxième mécanisme, qui est celui du surarmement par la constitution d'un arsenal pénal antiterroriste qui est, donc, comme cela a été dit, tourné vers le préventif avec des dispositions qui relèvent d'une logique d'exception. Ce qui est intéressant peut-être pour pas, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet, c'est de voir comment est-ce que la constitution de cet arsenal pénal antiterroriste se fait par une accumulation de lois, ça c'est dit assez classiquement, mais aussi par une sorte de mécanisme de liste de courses. Et ça de manière totalement assumée. La loi se fait sur la base de la liste de courses d'un certain nombre d'acteurs. Alors pour ma part, je ne parlerai que des acteurs judiciaires. Vous vous doutez que sur le plan policier, les listes de courses doivent être encore plus longues et certainement encore plus suivies. Mais je donne trois exemples de ces listes de courses qui ont encore accru le caractère dérogatoire de notre droit antiterroriste. Après la loi renseignement du 24 juillet 2015, il y a un émoi. Il y a eu un émoi notamment judiciaire sur le fait que les services de renseignement se trouvaient dotés de pouvoirs d'enquête et de technologies extrêmement développées. Et que l'autorité judiciaire, elle, était un petit peu à la traîne, de fait. Et bien donc, la liste de courses suivante a été évidemment celle du parquet de Paris, notamment pour réclamer que les mêmes pouvoirs, les mêmes possibilités, notamment ce qu'on appelle les IMSI catchers, qui sont des fausses antennes relais, puissent être confiées à l'autorité judiciaire. Évidemment, la loi du 3 juin 2016 l'a fait. Le président du TGI de Paris s'émeut de ce qu'il a du mal à composer les cours d'assises terroristes. Il y a trop de dossiers, il n'y a pas assez de juges. Eh bien, que se passe-t-il ? Évidemment, d'abord, une proposition de loi réduit le nombre d'assesseurs dans ces cours d'assises spécialement composées. Et puis, le gouvernement prend ça, voit que la proposition de loi, on n'est pas totalement sûr que ça va pouvoir passer dans les délais. Hop ! Un petit circuit court, et donc pour que ça entre dans un projet de loi qui a été adopté au mois de février, et donc tout passe. Les mandats de dépôt, c'est-à-dire la durée de la détention provisoire des personnes donc, qui sont mises en examen, placées en détention provisoire pour des actes, pour des délits terroristes, pas des crimes, pour des délits. À l'origine, la durée d'un mandat de dépôt, classiquement, c'est 4 mois. Ça veut dire que tous les 4 mois, le juge d'instruction doit réexaminer, savoir s'il estime que la détention provisoire se justifie à nouveau, saisir un juge des libertés et de la détention pour qu'il prononce la prolongation éventuelle de cette détention provisoire. Eh bien, les juges d'instruction antiterroristes exposent le fait que c'est compliqué pour eux, tous les 4 mois, c'est trop court. De fait, la loi fait passer à 6 mois la durée de ces mandats de dépôt pour des questions de commodité. Dernier exemple en date, la question des femmes de djihadistes, ou des femmes, des femmes qui sont parties sur un théâtre d'opération terroriste, comme on dit dans la loi. Eh bien, vous avez un ouvrage qui s'appelle « Le djihadisme », je ne sais plus quel est le sous-titre, qui a été coécrit par un ancien juge d'instruction antiterroriste, David Benichou, dans lequel il explique « vouloir poursuivre pour association de malfaiteurs terroristes les femmes occupant en Syrie de simples fonctions domestiques à raison de l'aide matérielle et affective apportée aux combattants ». Le raisonnement est le suivant. Si l'homme combattant ne mange pas, ne dort pas tranquillement et n'a pas sa maison propre, eh bien, il ne peut pas combattre. C'est quasiment... Franchement, j'ai l'air caricatural, hein, mais vraiment, je vous invite à lire ce livre, parce que c'est vraiment dit comme ça. Hein. Et donc, il fallait pouvoir trouver un moyen, d'une certaine manière, pour les femmes. Désormais, le moyen a été évoqué lors de la précédente table ronde, a été à peu près trouvé. Bon, il y aura bien certaines femmes qui n'avaient pas d'enfants, je ne sais pas comment on fera pour elles, mais bon, on trouvera une solution. Et puis, petite anecdote, donc nous-mêmes, syndicats de la magistrature, on va dans des auditions devant les parlementaires, au moment des débats sur ces lois. Globalement, notre discours est assez clair. Il consiste à dire nous ne voulons pas de ces textes, nous ne voulons pas de cette logique administrative, préventive, etc. Et bien néanmoins, j'ai eu le plaisir de me voir demander est-ce que j'avais une demande particulière ? Est-ce que... qu'est-ce que vous voulez ? Mais vraiment, très benoîtement, qu'est-ce que vous voulez ? C'était un parlementaire socialiste, mais bon, évidemment, ça, en la matière, comme ça a été dit, le consensus sécuritaire règne. Donc je reviendrai pas sur, effectivement, donc au-delà de cette liste de courses, en réalité on se demande d'ailleurs bien ce qu'on pourrait mettre sur ces listes de courses, puisqu'on a déjà une architecture pénale absolument centralisée, quasi intégralement centralisée, des infractions pénales très largement définies, et là-dessus beaucoup de choses ont été dites, et moi je vous invite, si un jour vous avez un petit peu de temps devant vous, il faut bien le reconnaître, à lire la thèse de Julie Alix sur les incriminations terroristes en droit pénal, parce qu'elle est vraiment passionnante, très éclairante sur le sujet, et puis une procédure pénale dérogatoire. Alors, tout cela a des effets, évidemment, sur l'office du juge, et donc cet office se trouve bouleversé par l'antiterrorisme, pas que par lui, mais bon, il est déjà assez fragile, mais il se trouve largement bouleversé par lui. Et notamment, ça pose un certain nombre de problèmes en termes de droit au procès équitable. Tout à l'heure a été évoquée la question du principe de légalité et ce qu'on appelle l'interprétation stricte du droit pénal. Dans une société démocratique, on considère qu'il y a des outils dans le droit pénal, notamment la possibilité de priver des personnes de liberté, qui sont justifiés par un certain nombre d'impératifs, mais qui impliquent que les règles soient appliquées de manière très stricte, pour qu'un citoyen ne puisse pas être incarcéré de manière arbitraire, par exemple, ou jugé de manière arbitraire. L'antiterrorisme comme système juridique, mais aussi système politique, produit du flou dans ce principe de légalité et dans ce principe d'interprétation stricte. Je pars d'une anecdote, après je vous donnerai des exemples jurisprudentiels. Sous l'état d'urgence, on est sous état d'urgence depuis quelques semaines, peut-être mois. Une collègue me raconte qu'elle sort de comparution immédiate. Donc vous savez, ces procès assez expéditifs. Comparution immédiate sans lien avec le terrorisme. Et elle me raconte que l'avocat de la personne mise en cause plaide la nullité d'un contrôle d'identité. Bon, un truc assez classique, quoi. Et la présidente de comparution immédiate l'interrompt, ça c'est normalement pas très classique, en disant « Mais maître, nous sommes sous état d'urgence, est-ce que vous maintenez vos conclusions ?» Alors on était à l'époque à un moment où il n'y avait pas de contrôle d'identité spécifique à l'état d'urgence, parce qu'évidemment cette bonne idée est arrivée à l'oreille des parlementaires qui l'ont introduit en juillet 2016. Mais au moment où tout cela se passe, l'état d'urgence ne change rien au régime des contrôles d'identité. Et surtout, il ne change rien au fait que les juges doivent toujours appliquer la loi et contrôler la légalité de ces contrôles. Bon. Ça, c'était pour l'anecdote, mais évidemment, ce qui est plus inquiétant et ce qui est plus préoccupant, et j'essaierai de faire vite parce que je suis déjà beaucoup trop longue, et je vous renverrai, c'est le moment un petit peu publicitaire, à une revue qui est animée par le syndicat qui s'appelle la revue Délibérée et qui consacre un dossier à la question terroriste, et dans laquelle il y a notamment un article qui est malheureusement écrit sur l'association de malfaiteurs terroristes, qui montre que toute la jurisprudence autour de l'association de malfaiteurs terroristes et donc des infractions terroristes, c'est celle qui est retenue dans la très grande majorité des affaires, est une jurisprudence qui, je dirais d'une certaine manière, qui ne s'impose pas de rigueur. C'est une infraction qui, dès le stade de sa définition, a un contour assez flou. Mais la jurisprudence va encore plus loin, et en fait, quand on examine la jurisprudence, il vaut mieux la définir par ce qu'elle n'impose pas au juge de réunir comme élément que par l'inverse. Ce qui est quand même un peu paradoxal pour du droit pénal. Donc par exemple, il n'y a pas besoin de déterminer la nature des faits préparatoires, des actes préparatoires. Il n'y a pas besoin... il faut que je vous définisse, parce que sinon, ça sera difficile à comprendre. L'association de malfaiteurs, c'est participer à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par des faits matériels, d'un acte de terrorisme. Et donc, il n'y a pas besoin de dire quelle est la nature des faits préparatoires. Il n'y a pas besoin de dire quel est le rôle de la personne mise en cause dans l'entente. Il n'y a pas besoin... L'entente peut se réduire à deux personnes. Il n'y a pas de condition de durée ou d'intensité des contacts dans cette entente. Il n'est pas nécessaire d'identifier les autres membres de l'entente pour condamner une personne. Sur l'intention que doit avoir la personne qui peut être condamnée, elle doit, et là je cite la jurisprudence, elle peut se réduire au fait de connaître dans les grandes lignes le projet. Parce que l'idée c'est la personne elle a pris le risque d'être associée à une nébuleuse terroriste. Une avocate générale devant la Cour de cassation dit notamment dans un procès qui est concerné une affaire qui se passait en Afghanistan, sur des faits commis en Afghanistan, la nature des actes éventuellement commis par M. Bidul sur le territoire afghan et leur qualification d'actes de terrorisme importe peu, ah bon ? Dès lors que, par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêt que pèsent contre lui des charges suffisantes d'avoir participé à une entreprise s'inscrivant dans la nébuleuse terroriste. Et c'est quand même assez significatif. Et puis, dans les faits, on a, et là j'en arrive aux déclarations que font certains juges, notamment dans le cadre des missions d'information, mais ils les font pour rassurer les parlementaires. C'est ça qui est dingue. Donc, une vice-procureure de la section antiterroriste dit dans une mission d'information « Une révolution est à mener du côté de la cour d'assises qui doit juger dans des délais plus brefs des individus ne comparaissant pas sur la base de dossiers dans lesquels il y aura peu de preuves. » Et donc, en fait, il faut condamner les gens. Alors, ça, c'est une pratique du parquet de Paris qui est, en tout cas de la juridiction de Paris, qui consiste à juger les gens en leur absence pour des faits qu'ils auraient commis sur un théâtre d'opération terroriste avec des dossiers qui sont quasiment sans preuve. Mais ensuite, en gros, l'idée étant, le jour où ils arrivent sur le territoire, il y a un mandat d'arrêt, on peut les arrêter, les mettre en prison. Et puis, il y a une modification substantielle du raisonnement juridique des juges. On saute des étapes et puis on présume des faits. Et ça, c'est pareil, c'est totalement assumé. Dans une autre mission d'information, Marc Trévidic dit « Si on a la preuve qu'un individu a rejoint en Syrie Jabhat al-Nusra ou l'État islamique, l'infraction est constituée qu'il ait fait la vaisselle ou tenu un fusil, puisque ce sont des groupes terroristes. La présomption de culpabilité est dans les faits évidente quand une personne part pour la Syrie. » Et quand même, dans les raisonnements juridique, quelque chose qui est préoccupant. Et puis, on a vu le juge se soumettre à des éléments extérieurs, par exemple des jurisprudences qui disent puisque telle organisation appartient à la liste internationale des organisations terroristes, il n'y a pas besoin de prouver plus que ça. Or, en droit français, cette liste n'a pas de... Elle n'appartient pas, je dirais, au référentiel du code pénal. Ça n'est pas un élément constitutif de l'infraction. On a donc un vrai problème autour de cette dimension-là, il faut que je termine. Et donc, aujourd'hui, le fait, par exemple, que dans la dernière loi, le juge des libertés et de la détention ait été introduit pour autoriser les perquisitions administratives, ça va encore renforcer cet effet, finalement, de dilution des garanties judiciaires qui se sont largement auto-dissoutes. Auto-dilué, mais ça va le renforcer dans la mesure où on va introduire à l'intérieur même de l'institution judiciaire, pour le coup, des mécanismes de contrôle sur des bases des critères administratifs et en utilisant notamment les notes blanches, qui vont encore plus avoir des effets délétères sur le droit pénal. Je voulais développer quelque chose sur la question du principe du contradictoire, mais ça sera fait certainement dans les propos qui suivent. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que ça a des effets à la fois, je dirais, dans les procédures terroristes, mais aussi dans les procédures beaucoup plus classiques, et notamment dans des procédures de droit commun au travers de la figure du radicalisé et de l'inquiétude et de la préoccupation pour la détection du radicalisé, dans la mesure où il va y avoir beaucoup d'effets. Par exemple, moi je suis juge d'application des peines, et on a dans des dossiers des sortes de petits signalements qui disent « le parquet de Paris souhaiterait être informé de ce dossier ». Donc nous, on suit une personne qui est là pour un travail d'intérêt général, par exemple, pour un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Et alors là, on va voir apparaître des éléments d'information qui ne sont censés être confidentiels, qui du coup vont sortir du principe du contradictoire, qui est un principe cardinal en matière pénale. On va savoir qu'un tel est fiché S, sans savoir pourquoi, mais quelle incidence est-ce que ça va avoir derrière sur une décision éventuelle. Et donc, on a là beaucoup d'effets, en tout cas, qui sont produits sur l'office du juge. Je vais arriver un peu à ma conclusion de manière complètement, peut-être un peu artificielle, je l'espère pas trop, mais pour dire que, pour citer Julie Alix, qu'elle vraiment, je pense qu'il faut se référer absolument, qui dit quelque chose qui me paraît essentiel et qu'on a essayé de dire aux parlementaires, mais en vain. Elle écrit « Lorsque le vide juridique se réalise, c'est que l'on a atteint les frontières de l'illicéité et peut-être faut-il s'en satisfaire ? » Et je crois que c'est ça qu'arrivent pas à faire aujourd'hui nos parlementaires. C'est un moment, ils ont finalement une sorte d'angoisse du vide et ils veulent tout combler. Or, la démocratie, les principes fondamentaux de l'état de droit, notamment la présomption d'innocence, enfin toute une série de... Je vais finir sur une sorte de phrase un peu chamallow, mais réside dans le fait qu'il y a une situation dans laquelle il y a un vide. Et ce vide, c'est celui de la liberté. Et malheureusement, effectivement, on voit que par ces mécanismes successifs et par la mutation à la fois du rôle de l'exécutif, de ses pouvoirs et de l'intervention de l'autorité judiciaire en matière d'antiterrorisme, ce vide est en train de disparaître, sachant que tout cela, hélas, ne se limite pas à l'antiterrorisme, soit parce que légalement ça déborde, soit carrément par contamination de la logique, notamment dans l'esprit des juges.